L'Italie est faite, reste à faire les Italiens. Formule attribuée à Massimo d'Azeglio, président du Conseil du Royaume de Piémont-Sardaigne, de mai 1849 à novembre 1852.
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
Le phénomène des révolutions de 1848 ne manque pas de toucher l'Italie. À vrai dire, elle débute même là, même si la révolution parisienne va avoir un impact bien supérieur. Elle débute effectivement à Palerme et à Naples entre le 12 et le 29 janvier 1848. Et à partir du mois de mars, c'est l'ensemble de la péninsule, en particulier dans les centres urbains, qui connaît des phénomènes de manifestations révolutionnaires. Le roi Ferdinand II de Bourbon, le roi Léopold II de Habsbourg, Charles Albert de Savoie, le pape Pie IX, face aux manifestations, promulguent des constitutions pour calmer l'agitation dans leurs états. Milan, Venise se soulèvent contre la présence autrichienne au moment où est apprise la chute de Metternich à Vienne, car Vienne aussi connaît d'importantes manifestations. Seulement, on a pu avoir le sentiment, en 1848-49, que toute la péninsule allait finalement s'unifier et en tout cas se libérer de la présence des Autrichiens. Or en fait, après une première phase, les velléités révolutionnaires se radicalisent. À Rome, une manifestation aboutit à l'assassinat de Pellegrino Rossi, principal ministre du gouvernement pontifical. Le pape lui-même est assiégé au Quirinal. Il parvient à s'enfuir et à trouver refuge à Gaète, dans le royaume des deux Siciles. La République est proclamée dans la ville éternelle par une assemblée constituante. On a donc le sentiment, au travers de l'exemple romain, mais ceci serait vrai dans d'autres endroits de la péninsule, que la propagation révolutionnaire va véritablement aboutir à une réalité. D'autant plus que Charles Albert, veut lever le drapeau de l'unité nationale, mais il est vaincu par les Autrichiens au mois de mars 1849. Alors, intéressons-nous à la raison de l'échec. Il est divers. D'abord parce que l'Autriche ne s'écroule pas. L'Empire perdure et en 1849, il a les moyens militaires d'écraser les révolutionnaires et les armées piémontaises. D'autre part, il y a aussi la division des divers courants patriotiques. Qu'y a-t-il de commun entre un noble libéral comme Massimo d'Azeglio qui souhaite que l'unité se fasse autour de la maison des Savoies ou un républicain comme Giuseppe Mazzini qui croit possible un spontanéisme révolutionnaire qui aboutirait à une démocratie républicaine? Il y a aussi un autre élément qu'il faut prendre en compte, c'est que les campagnes participent peu à ces phénomènes révolutionnaires. Certes, il y a bien quelques soulèvements paysans en Toscane et en Romagne, mais pour l'essentiel, les révolutions de 1849 et en Italie sont avant tout urbaines, bourgeoises, intellectuelles, mais assez peu rurales. Une large partie de la société italienne n'a pas été partie prenante du mouvement. Mais un homme va réussir à comprendre la situation. Cet homme, c'est Camillo Benso, comte de Cavour, que j'avais évoqué lors de notre précédente chronique des fenêtres de l'histoire. Quand il devient président du Conseil en 1852, il a compris que l'unité d'Italie ne pourrait se faire non pas par un spontanéisme révolutionnaire, mais au contraire par une préparation réelle et véritable qui permettrait de planifier, si j'ose dire, la préparation de l'unité. Et donc, il va d'abord essayer d'unifier les courants nationaux italiens au travers de la Société nationale, qui d'ailleurs défend le thème de la libération par la guerre contre l'Autriche. Garibaldi, issu des milieux républicains et revenu d'Amérique, adhère à cette Société nationale. Ensuite, Cavour comprend qu'il convient de moderniser le Piémont-Sardaigne. Il va moderniser l'administration centrale, le réseau ferré. La ligne de chemin de fer Turin-Suse, par exemple, est inaugurée en 1854. Il va également construire, sur le plan militaire, le port militaire de La Spezia, devenu, encore aujourd'hui, un port de guerre italien. Enfin, et ce n'est pas le moindre aspect de la politique de Cavour, il entame des pourparlers et il parvient, après plusieurs mois de négociations, à obtenir l'alliance de Napoléon III, empereur des Français. Au début du printemps 1859, l'armée piémontaise entreprend sa mobilisation. Le gouvernement autrichien, qui n'est pas dupe de la réalité de celle-ci, adresse un ultimatum à son homologue de Turin. Celui-ci le rejette et l'empereur François-Joseph de Habsbourg déclare la guerre au Piémont-Sardaigne le 26 avril, provoquant l'intervention de la France aux côtés de son allié. Les opérations militaires se déroulent essentiellement en Lombardie. Elles sont marquées par les victoires franco-piémontaises de Magenta et de Solferino les 4 et 24 juin 1859. Mais l'ampleur des pertes dissuade Napoléon III de poursuivre l'offensive vers la Vénétie. Le 5 juillet, il adresse une proposition d'armistice à l'empereur François-Joseph qui en accepte le principe. Ce changement de politique provoque la démission de Cavour qui reviendra néanmoins au pouvoir quelques mois plus tard. Entre-temps, ce qui s'est passé réalise en partie les espoirs de Cavour. Parce que, en même temps que la campagne de Lombardie, des actions insurrectionnelles éclatent en Italie centrale. En avril 1859, Florence s'insurge, obligeant le grand-duc Léopold II à s'enfuir. À Parme, des officiers pressent la grande-duchesse Marie-Louise à intervenir aux côtés du Piémont-Sardaigne. Ayant refusé, elle est contrainte à la fuite. Le duc de Modène, François V, quitte lui aussi son état. Du 11 au 22 juin 1859, les principales villes de Romagne, dont Bologne, dans les Marches, l'Ombrie, se soulèvent contre l'autorité pontificale. Cet aspect n'avait pas été véritablement négocié avec la France, ce qui fait que Napoléon III, estimant que la situation était allée bien au-delà de ce qu'il avait autorisé, se permet de demander le rattachement de Nice et de la Savoie, ce qui sera fait après des plébiscites. La situation évolue également dans le sud. Il y avait eu des soulèvements en faveur de l'unité en Sicile. Une expédition composée d'environ un millier d'hommes, officiellement une seule femme, Rosalia Montemason, va secouer l'île et effectivement, commandée par Giuseppe Garibaldi, qui a fait partir de Gênes cette expédition, va chasser les Bourbons de Sicile et débarquer en Italie du Sud, faisant la jonction avec les troupes royales de Victor Emmanuel II. Il y a là, effectivement, quelque chose qui a largement dépassé ce que prévoyait sans doute Cavour en 1859. En fait, il y a eu, en 1859, puis en 1860, avec l'expédition des Mille, une véritable conflagration générale dans la péninsule qui a permis, au mois de mars, de proclamer Victor Emmanuel de Piémont-Sardaigne, roi d'Italie par la grâce de Dieu et la volonté de la nation. Néanmoins, certes, l'Italie existe en tant qu'État, mais il faut bien noter les limites de cette unité. Trois problèmes ne sont pas vraiment résolus au moment de la proclamation du royaume. Le premier problème est conjoncturel. La Vénétie reste sous l'administration de l'Autriche. Elle ne sera récupérée qu'après la guerre de 1866. Le deuxième problème est la relation entre l'Église italienne et l'État. L'Église, au travers de la personnalité de Pie IX, ne reconnaît pas l'unité. Il y a là une espèce de sentiment de spoliation. Et le pape Pie IX va s'enfermer au Vatican après 1870, quand les troupes royales auront pris la ville. Et enfin, troisième problème, c'est la question méridionale. Il est indéniable qu'une grande partie de la société méridionale a vu l'annexion comme une espèce de violation de ses propres droits. Et il y a eu une résistance populaire dans les campagnes contre les troupes piémontaises qui arrivaient dans le sud. Cette résistance a fait environ 10 000 morts. Donc oui, il y a bien eu une limite à cette unité. Néanmoins, en 1870, eh bien, le rêve des patriotes italiens de l'époque de la Restauration s'est réalisé. L'Italie est unifiée.